Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 6, les merveilles de Pagan. Aujourd'hui, nous retrouvons Thierry Robinet, avec qui nous allons partir sur les routes d'un nouveau pays, le Myanmar, que vous connaissez peut-être mieux sous son ancien nom de Birmanie, et nous allons commencer par son site le plus exceptionnel, Bagan. Pour localiser Bagan, je vous invite à vous rendre sur notre site web, sur lesroutesdelasie.com, puis à cliquer sur le lien « Tous les épisodes ». Au bas de cette page, vous verrez une carte de l'Asie, avec des points placés sur les différents lieux dont nous avons parlé jusque-là dans l'émission. Sans plus attendre, entamons cette première étape de notre voyage en Birmanie. Bonjour Thierry.
Bonjour.
On continue notre grand voyage sur les routes de l'Asie aujourd'hui. On va partir dans un nouveau pays, la Birmanie. Et on va introduire aujourd'hui une série d'épisodes sur ce magnifique pays. Grand pays, très varié, donc on va prendre le temps d'en parler, une région après l'autre. Et on va commencer par la région de Pagan. Donc raconte-nous déjà comment tu es arrivé là-bas et dans quelles conditions, puisque c'est un pays qui était assez fermé à l'époque.
Alors la Birmanie, c'est quelque chose, c'est un pays à part, je crois, en Asie du Sud-Est. Parce qu'il est un pays charnière entre le monde de l'Inde et le monde de l'Asie du Sud-Est. Donc il a ses caractéristiques propres. Moi, je suis arrivé en Birmanie en 1978. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tourisme. Le pays était assez fermé. La première fois où je suis arrivé, il y avait qu'un visa de 3 jours. Donc, je ne pouvais rester que dans la région de Rangoon. Mais les années passant, le visa est passé à 1 semaine. Et là, j'ai pu commencer à aller voir le site de Pagan. Parce que je ne savais pas grand-chose, mais j'avais lu aussi quelques récits sur Pagan, et j'ai dit un jour, ok, je prends un avion, je vais à Pagan. Quand je suis arrivé à Pagan, c'est vrai que j'ai été, on peut dire quelque part, touché par la grâce. Parce que pour moi, arriver à Pagan, c'était le matin du monde. Tu débarques, tu avances comme ça sur la route entre l'aéroport et ce site exceptionnel, et tu commences à voir des stupas. 1, 2, 3, 10, 100, partout. Tu te dis, mais waouh, où est-ce que j'arrive là? C'est absolument exceptionnel ce coin-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet endroit. Je me suis posé dans un petit hôtel et après j'ai pris ma bicyclette parce qu'à l'époque il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout, il y avait juste des calèches. Et je suis parti à bicyclette à travers ce site exceptionnel de 42 km² où se trouvent plus de 5000 temples. Aujourd'hui il en reste 3 ou 4000 qui sont en restauration. Mais je pense que vraiment, de tous les voyages que j'ai faits en Asie, Pagan est très certainement l'endroit qui m'a le plus impressionné. Vraiment, parce que c'est un autre monde. Je crois que, historiquement, c'est l'âge des bâtisseurs. À partir du 7e siècle jusqu'au 13e siècle, les premiers empereurs ont commencé, quand ils ont embrassé la foi bouddhiste, ils se sont mis à construire comme des fous, des pagodes, des shikharas, des temples, tous basés sur le modèle de l'Inde ou le modèle de Ceylan, les Dagobas par exemple, et tous sont différents. À l'intérieur de ces temples, de ces pagodes, il y a des milliers de Bouddhas en position assise, en position couchée, debout, prenant la terre à témoin. Donc il s'est vraiment passé quelque chose là-bas. Donc à partir du moment où on a vu ça, déjà au départ, on n'a qu'une envie, c'est de mieux connaître Pagan. Donc c'est partir à l'aventure, parce que c'est une véritable aventure que de sillonner ce site à bicyclette ou en calèche et aller comme dans une forêt. Sauf que là, c'est plus une forêt primaire comme on peut voir à Bornéo, c'est une forêt de temples. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Moi, je n'avais jamais rien vu de pareil.
Ouais, je suis assez d'accord. J'ai eu l'occasion d'y aller en 2009. Et c'est vrai que, pareil, je suis arrivé, j'en voyais 10 peut-être à portée de vue. Et puis, je suis monté sur un de ces temples, pas un gros temple, un tout petit, 8 ou 9 mètres du sol. Et là, j'ai vu toute cette étendue de temples. Là, ça commence à être plusieurs centaines de temples. D'un seul coup d'œil, c'est incroyable. Et alors, le meilleur moment peut-être pour les voir, c'est j'imagine le coucher du soleil, c'est un moment inratable. Le matin, il y allait tôt, j'imagine, parce que la chaleur est quand même assez écrasante.
Quand on vit à Pagan, dans une petite loge qui est à l'extérieur du site, où il faut se lever tôt pour prendre les premières lumières qui sont sur, qui arrivent sur ce site exceptionnel. Ou c'est aller aussi au coucher de soleil, monter sur une pagode, par exemple la pagode Shwezando, qui est une des plus connues et qui est assez facile d'accès. Parce qu'elle est à l'extérieur, les escaliers sont sur l'extérieur, donc on n'a pas de problème pour monter. Et quand on est au sommet et qu'on découvre le site sur 360 degrés, ce que l'on y voit, c'est absolument phénoménal.
Et donc parmi tous ces temples, quels sont les gros édifices vraiment les plus connus, les plus importants?
Pour moi, les plus gros édifices, ceux qui ont vraiment l'âge des bâtisseurs, ce qui représente l'âge des bâtisseurs de l'époque, c'est vraiment le temple de Sulamani et de Damayanji, qui sont vraiment des cathédrales de briques, parce qu'ils utilisaient la brique qui provenait des bords de l'Irrawaddy, du fleuve qui est tout près. Et là, vraiment, où les gens ont construit des temples extraordinaires, superposés avec des voûtes, avec des bouddhas qui sont à l'intérieur et qui regardent, qui dominent le monde, quoi. Donc c'est tout ça, Pagan, en fait. Et je pense que quand on va à Pagan, quand on prend le temps de regarder, de vivre les instants que l'on a sur place, que ce soit un jour, deux jours ou trois jours, ben c'est cela, c'est aller de temple en temple, à travers la campagne, rencontrer les paysans aussi, qui cultivent toujours leurs champs de millet au milieu des temples. C'est un immense site archéologique. C'est quelque chose de hors du commun, quoi.
Et ces temples ont au moins 1000 ans ou plus de 1000 ans? Comment on les date?
Les premiers temples ont été construits par l'empereur Anuradha au 7e siècle. Et l'âge d'or de Pagan a duré du 7e, 8e siècle jusqu'au 13e. Et ensuite, les capitales ont été déplacées parce qu'il y avait de nombreuses guerres incessantes entre souvent les royaumes birmans et les royaumes thaïs. Il ne faut pas oublier que les Thaïs ont perdu la guerre devant les Birmans. Ayutthaya a été complètement rasée, ce qui fait qu'au niveau relationnel entre les deux pays, les Thaïs n'ont jamais oublié qu'Ayutthaya a été complètement disparu. Et à chaque fois, les vainqueurs ramenaient des trésors dans leur capitale et embellissaient leur capitale. Et Pagan en a fait partie.
Donc tu disais il y avait à peu près 5000 temples à l'origine, 3000 aujourd'hui sont en bon état. Les autres sont en voie de restauration, comment ça se passe?
Les premières restaurations de l'UNESCO ont commencé, et c'est un Français qui est à l'origine de tout ça, parce que c'est un homme, c'est pareil, un peu comme moi, il s'est mis à aimer Pagan d'une manière irraisonnée, je vais dire, et il a entrepris de vouloir réparer certains temples. Parce que vraiment, il y en a qui étaient dans un état lamentable, il y avait des bouddhas qui étaient par terre, on trouvait des terracottas partout, que l'on pouvait d'ailleurs à une époque prendre, mettre dans son sac et emmener chez soi. Et cet homme, un Français, qui était archéologue de métier, il a commencé à se mettre en accord avec le gouvernement birman, et il a commencé avec des tout petits moyens, avec des paysans locaux, des bâtisseurs locaux, ils ont commencé à réparer. Et tout doucement, l'UNESCO a repris tout ça en main pour réparer ce temple. Certes, maintenant, il y en a à peu près 3000 que l'on voit, qui sont toujours visibles. D'autres, ce sont des tas de pierres qui sont par terre. L'herbe a poussé dessus, il y a les chèvres qui se baladent. Mais tout doucement, bon, je pense qu'on verra dans les années à venir plein de temples qui vont revoir le jour. Alors, pour ma part, il est bien de revoir Pagan comme à l'époque, de retrouver tous ces temples. Si un jour on en retrouve 5000, ça sera fabuleux. Mais d'un autre côté, le côté ruine aussi amène une valeur un peu plus forte.
Un charme aussi.
Un charme, voilà, de se promener à travers ce champ de mi-ruines et de pagodes qui sont encore, qui défient le temps, quoi.
L'un de ses plus gros temples, c'est le temple Ananda. Et il y a, je crois, chaque année un festival qui a lieu au pied de ce temple.
Voilà, le temple de l'Ananda est le temple vénéré à Pagan, dans le site de Pagan lui-même. Ananda, c'était le frère du Bouddha Siddhartha, donc c'est quelqu'un d'important dans la mythologie bouddhiste. Et le temple lui-même, chaque année, à la pleine lune du mois de janvier, il y a tous les paysans, des milliers de paysans qui viennent de toutes les contrées aux alentours de Pagan. Ils arrivent avec leurs chars à bœufs, les charrettes et tout, et ils s'installent autour de la pagode. Donc tout le peuple va prier l'Ananda, et en même temps, c'est une immense foire et une immense fête. Et ce jour-là, l'Ananda reprend vie, vraiment.
Une très belle balade à faire dans ce coin-là, c'est de longer le fleuve Irrawaddy, qui passe par Pagan, et d'y aller au coucher du soleil, puisque c'est là où, évidemment, on a la plus belle lumière. Et à marée basse, il est même possible d'aller jusqu'au village en face.
L'Irrawaddy, donc, c'est le poumon du pays. Pagan n'aurait pas existé si l'Irrawaddy n'avait pas été là. On l'appelle le fleuve éléphant. Donc, il a amené la vie grâce à ce fleuve. Les bâtisseurs ont pu aller chercher les blocs de pierre, les briques, etc., à l'extérieur de Pagan et les amener sur le site actuel. C'est un endroit, les rives de l'Irrawaddy, c'est un endroit tout empreint de sérénité. Parce qu'il y a beaucoup de monastères construits en vieux bois, qui ont des siècles, qui sont posés au bord du fleuve. Il y a beaucoup de pagodes et de pagodons qui sont au bord. Et le soir, quand le ciel devient rouge et que le fleuve s'embrase, vraiment, on dirait, moi, il m'est arrivé de voir le fleuve rouge sang, tellement que les lumières étaient fortes, etc. On voit tout le peuple qui arrive ici avec les charrettes, ils viennent chercher de l'eau. Parce que l'eau est assez rare à Pagan, donc le fleuve, finalement, est vraiment là, la source de vie.
Oui, c'est un endroit assez aride, quand même.
C'est un endroit très aride. Mm-hmm. Toute la plaine autour de Pagan est un endroit très aride. Et si on relit des vieilles chroniques, les chroniques du palais de cristal, comme on appelle, c'est des vieilles chroniques bouddhistes de l'époque de Pagan, on se rend compte que les alentours de Pagan, il y avait des forêts tropicales, humides, et que les différents empereurs de l'époque, pendant des siècles, ont coupé les arbres pour construire les nouvelles capitales, etc. Et donc, c'est devenu un pays très désertique. Et c'est pas facile maintenant, parce que quand on arrive à la saison sèche, vraiment, il y a des températures qui sont assez extrêmes, parfois. C'est assez étonnant, alors qu'on pense tous que la Birmanie est un pays quand même tropical humide. Ce qui l'est, d'ailleurs, pendant la mousson. Sauf que Pagan est une zone assez aride.
Une manière assez exceptionnelle de contempler les temples de Pagan, et assez onéreuse aussi quand même, il faut le dire, c'est de monter en montgolfière et de faire donc une balade au-dessus des temples. Et en fait, tu es à l'origine de cette balade en montgolfière, puisque tu as, avec Nicolas Hulot, pour l'émission Ushuaïa, lancé les premiers ballons dans l'air.
C'était en 1998, je me souviens. Bon, ça fait, je travaille avec Ushuaïa depuis 1990, et lors de mes pérégrinations avec Ushuaïa à travers toute l'Asie, parce qu'on a filmé un peu partout, donc on a eu l'autorisation de filmer en Birmanie, ce qui ne s'était jamais fait avant par une télévision européenne, hormis peut-être les Anglais de la BBC. Et avec Nicolas Hulot, on avait amené deux gros ballons, des grosses montgolfières, dont l'une était couleur or, comme l'or des temples de Pagan ou des temples birmans, et l'autre est très argent. Et je me souviens, près de l'Irrawaddy d'ailleurs, près d'un temple, on devait gonfler les montgolfières, donc à l'hélium, et c'est tous les petits moines qui sortaient comme des fous du monastère. Ils voulaient tous nous aider, ils étaient tous fous, et c'est eux qui pompaient, qui ont levé la montgolfière, et tous les moines et tout le village de Pagan venaient nous voir et tout, ça a été fabuleux. Et quand ils ont vu ces montgolfières qui montaient au-dessus des temples et qui passaient au-dessus de la Nanda, au-dessus de Sulamani, au-dessus de Damayanji, au-dessus de la pagode Shwisigon, le peuple est resté, je dirais, muet à la limite. Plus personne ne parlait parce qu'ils avaient l'impression que c'était une émanation du Bouddha qui revenait sur terre. Et ça, les moines nous l'ont dit. C'est extraordinaire que vous soyez là et que vous fassiez ça. Merci, merci, merci. Et depuis ce jour-là, il y a un festival de montgolfières en Birmanie qui, au départ, c'était nous-mêmes qui avons lancé un petit peu cette façon de voir les temples ou de voir la Birmanie vue du ciel. Et depuis, au niveau du tourisme à Pagan, il y a une société anglaise qui a repris ça et on peut faire des vols en montgolfière au-dessus de ce site exceptionnel. Bon, c'est très bien ces vols en montgolfière. Moi, j'ai eu l'occasion moi-même donc de participer à une balade au-dessus de Pagan en montgolfière. C'était l'occasion ou jamais, dirais-je. Mais moi qui viens en Birmanie depuis 1978, donc autant de fois sur Pagan, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que de se promener en calèche ou en bicyclette, parfois des bicyclettes d'un autre temps, et d'aller à la rencontre du peuple, des temples, du village de Minantou, par exemple, qui se trouve tout au bout du site de Pagan, où là, sous la terre, il y a un petit monastère que les gens connaissent, mais que peu de touristes vont voir, peu de voyageurs vont voir. Et là, il y a un moine que je connais qui vit sous la terre depuis plus de 30 ans. et qui est un véritable, qui est un homme saint, vénéré par la population birmane, parce que les gens viennent de très loin le voir, et avec qui j'ai passé des moments assez grandioses dans sa grotte, sous la terre, et qu'ils ont creusé eux-mêmes. Et sans se parler, parce que je ne parle pas birman, même si je sais quelques mots, on a échangé des sourires, on a échangé des cacahuètes, on a échangé des bananes. Et à chacun de mes voyages, même si je reviens 2 ou 3 ans après, il est toujours là, il me reconnaît. Et il me dit de m'asseoir. Et dans le silence le plus total, on vit en symbiose, en fait. On n'a pas besoin de se parler. Et ça, pour moi, c'est un des grands moments de Pagan aussi, que j'apprécie.
Mais est-ce que tout le monde peut aller le voir, ce monsieur ?
Tout le monde peut aller le voir, d'accord. Bien sûr, on peut aller le voir si on sait où c'est. Et, mais bon, tout le monde ne va pas pouvoir s'asseoir, on ne va pas arriver comme ça à 50, c'est pas intéressant. Donc il faut trouver un moment de tranquillité et puis être seul avec un homme qui est un saint, quoi. Qui a quelque chose de particulier, ça se voit dans ses yeux.
Alors Pagan, c'est aussi un lieu avec un artisanat très développé et notamment réputé pour ses lacs.
Le travail de la laque, la connaissance de la laque date des premiers empires birmans, c'est-à-dire depuis le 7e siècle. Anorata, qui est un empereur qui est un des plus connus de la Birmanie, puisque ça a été le premier, déjà utilisait la laque pour son palais. Donc pour fabriquer des objets, des coffres, pour la décoration des temples. Donc c'est un procédé particulier, donc c'est une sève que l'on récupère d'un arbre. Et depuis, c'est devenu l'artisanat prisé de Pagan. Quand on veut acheter des lacs dans toute la Birmanie, on sait très bien que la laque, la meilleure, les objets, etc., proviennent de Pagan. Donc, pendant votre séjour à Pagan, quand vous partez en bicyclette, à travers les temples, etc., donc, il faut prendre la peine de s'arrêter dans un atelier de lacs, que ce soit un atelier grand ou un petit artisan local qui fabrique ses lacs lui-même, de regarder comment les gens travaillent. Travail de fourmis, où on utilise parfois du crin de cheval pour faire des pots, etc., et qu'on va laquer. Quand on fait un pot de lac, il y a 14 couches de lac qui sont mises dessus. On ne se rend pas compte, il faut les faire sécher, il faut en remettre dessus. Et après, on grave sur cette laque toute la vie des dynasties birmanes. Donc on retrouve un petit peu la vie du Bouddha, on retrouve la vie des princes, des moines, des paysans, etc. Et ça, c'est assez fabuleux. Donc c'est un art qui est millénaire et que la Birmanie, finalement, garde jalousement. Parce que je sais qu'on en trouve aussi en Thaïlande, mais franchement, c'est pas la même chose. Donc Pagan, c'est la capitale de la laque en Asie.
Donc à côté de ce site avec tous ces temples, il y a maintenant une nouvelle ville qui a été créée, qui s'appelle New Pagan. Quelle est l'histoire de cette petite ville ?
Bon, New Pagan, le nouveau Pagan, oui. Bon, c'est un gros village, on va dire. En fait, les habitants de Pagan habitaient dans le site archéologique. Moi, j'ai connu ça. J'habitais dans Pagan, donc ma petite lodge, je me souviens, j'étais chez Momo Guesthouse, et puis après je suis passé chez Arni, et j'étais juste à côté d'un immense temple. Donc était à quelques mètres. Donc on était vraiment à l'intérieur du site archéologique. Mais le problème du gouvernement, comme c'était à l'intérieur de l'enceinte de l'ancien palais royal, qui était détruit par le feu, les gens s'étaient mis à creuser dans la terre. Et il y en a beaucoup qui ont retrouvé des tas d'objets de l'ancien palais royal, et notamment beaucoup de rubis. Donc tout le monde s'était mis à faire, c'était un véritable champ de mine, je dirais, où tout le monde allait derrière sa maison, aller faire des trous, creuser pour voir s'il ne pouvait pas trouver. Donc c'était impossible pour le gouvernement d'accepter ça. Donc un beau jour, à la Birmane, hein, on a mis tout le monde dehors. On leur a dit, je schématise, hein, le 1er janvier, vous verrez, on vous donne des terres qui sont incultes où il n'y a personne, à l'extérieur du temple. Moi j'ai connu cette époque-là, parce que j'avais un copain qui avait un petit restaurant où j'allais tout le temps dans Pagan. Et quand on leur a donné New Pagan, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau. C'était carrément le désert.
Il y avait tout à bâtir.
Il y avait tout à bâtir. Et le gouvernement ne donnait pas une thune, pas un tchat, qui est l'argent birman. Et pendant 10 ans, ils en ont bavé. Mais avec la foi qu'ont les Birmans, ils ont reconstruit une petite ville, ouais, New Pagan, où finalement il y a beaucoup de lodges, beaucoup de petits restaurants. Et ils ont triomphé. Et New Pagan est un endroit qui est sympathique, donc on peut facilement loger, on peut facilement le promener, et se trouve finalement juste à l'extérieur du site archéologique, quoi.
C'est là où on ira dormir si on visite le site.
Absolument.
D'accord.
Absolument. Et à côté, de l'autre côté, en arrivant finalement entre l'aéroport et le site de Pagan, il y a aussi le village de Nyongu, qui lui n'a jamais bougé, qui est un très vieux village, où il y a une pagode qui s'appelle, qui est la pagode de Shwedagon, qui est la sœur jumelle de la pagode Shwedagon à Rangoon, mais bon, en moins grandiose, mais c'est une pagode qui a 1500 ans, donc pour les Birmans, elle a de la force, quoi. Alors, ce qui est intéressant à Nupagan, c'est que tous les vieux monastères de Pagan sont restés dans le site de Pagan. En général, ils se trouvent tous près de l'Irrawaddy, mais comme le village de Pagan a été déplacé, les moines, le matin, comme ils vont tous chercher leur... avec leur obol, ils vont chercher à manger que la population leur donne au quotidien, ils sont obligés maintenant de partir sur Nupagan. Avant, ils y allaient à pied, maintenant Nupagan, ça fait un peu trop loin. Donc, ils ont un vieux camion, un vieux Bedford anglais des années 50, et à plusieurs occasions, le matin, à 6 heures, je me mets au carrefour de la porte de Pagan, je les attends, et les moines, ils me disent, allez, viens, monte avec nous. Donc je monte dans cette foule de robes safran et tout, et on va jusqu'au village de Nupagan, et je les suis. Et ils passent dans tous les villages, dans les petites rues, ils récupèrent du riz, du poulet, du poisson, etc. Et on rentre après au monastère, et on partage la nourriture ensemble. Et moi, bien sûr, bon, je ne suis pas là comme un moine, mais je fais une donation aussi, je donne aux moines supérieurs. En même temps, ça sert pour l'éducation des jeunes moines. Et je mange avec eux. Et ce sont des moments extraordinaires que tout le monde peut faire. C'est pas parce que moi je connais bien
Pagan.
Voilà, c'est pas parce que moi je connais bien Pagan que je peux faire ça. Certes, j'en ai plus l'habitude, mais si ça vous intéresse de voir comment passer un moment avec des moines, oh, bah, c'est fabuleux. Faites-le.
Et en restant dans la région, à une cinquantaine de kilomètres à peu près de Pagan, il y a un autre site exceptionnel qui s'appelle le Mont Popa, qui est en fait une colonne de lave et au sommet de laquelle on a construit un temple. Mais là, on n'est plus dans le bouddhisme.
La colline des Nats, c'est l'endroit du Mont Popa. Les Nats, ce sont tous les esprits birmans. Parce qu'il faut bien comprendre que, avant que le bouddhisme prenne son essor en Birmanie, les gens étaient animistes. En fait, donc ils vivaient avec le culte des esprits. Et les bouddhistes, les birmans, ont toujours gardé, un petit peu à l'image de l'Indonésie, ils ont une religion, la religion leur a été apportée, mais derrière ils n'ont jamais quitté leur religion des départs, des esprits, du monde des esprits. Et ils en ont fait, il y a un endroit particulier dans toute la Birmanie qui symbolise ce monde des esprits, c'est le Mont Popa. Alors le Mont Popa, c'est un temple qui se rapproche plus finalement de l'hindouisme que du bouddhisme, qui est au sommet d'une colonne de lave solidifiée. Il ne faut pas oublier que le Mont Popa, en fait, il est à côté, lui. C'est un volcan. C'est le seul volcan de Birmanie. Donc c'est assez exceptionnel. C'est le premier volcan de la chaîne des volcans qui après a son prolongement sur l'Asie du Sud-Est, dont l'Indonésie. Premier volcan. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un mystère, mais c'est comme ça. Et juste à côté, donc, à l'époque, je pense que c'est à l'ère secondaire ou à l'ère tertiaire, quand le volcan a explosé, on le voit très bien quand on est au sommet de la colonne de lave, au sommet du Mont Popa, enfin du temple lui-même, toutes ces coulées de lave qui s'épanchent dans la vallée, vers Chopadong. Et donc on peut imaginer que le volcan a été a eu une force inouïe dans des époques reculées. Et donc, cette colonne de lave surélevée, on en a fait une montagne des esprits. Donc quand on arrive au Mont Popa, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Une armée de singes, des singes partout, qui sont dans la forêt, il y a une très belle forêt là. Donc en bas, il y a des bâtiments, juste au pied de la colonne de lave solidifiée, où les nattes habitent. Et donc ils sont personnalisés comme des poupées. Bon, par exemple, vous avez le nat fumeur. Tous les gens qui veulent arrêter de fumer vont vers ce nat et vont lui mettre des cigarettes pour demander à ce nat, ok, moi je vais arrêter de fumer, donc toi tu vas fumer pour moi. Donc comme ça, moi je vais arrêter de fumer. Après, plus loin, il y a pour la bonne fortune. On veut demander d'avoir de l'argent parce qu'on est pauvre ou qu'on ne réussit pas dans les affaires, etc. Un peu plus loin, il y a ceux qui veulent se marier, la femme qui veut trouver un mari. Donc elle a un nat qui est personnalisé. Et les gens, ils croient dur comme fer. Et ils donnent de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ensuite, on monte la colline, donc ce sont des escaliers interminables qui montent, mais vraiment terribles, hein. Une colonne de lave, c'est assez pentu, et on arrive au sommet, vraiment on se croirait plus en Inde qu'en Birmanie, et partout par contre c'est le bouddhisme, il y a des bouddhas, donc on s'assoit, il y a des moines, on peut leur demander la bonne aventure, si on a quelque chose à demander au bouddha, c'est le moment de le faire, de s'asseoir. Et voilà, et surtout, c'est l'ambiance, quoi. Les singes sont partout, espiègles, ils sautent sur les tôles, ça fait un boucan pas possible.
Et on se salit un petit peu les pieds sur les marches, en montant.
Ah, complètement, oui, parce que c'est vraiment sale. Je reconnais que la montée des escaliers n'est pas des plus propres. Mais bon, il y a une ambiance. Et c'est une ambiance qui diffère de tous les autres endroits que je connais en Birmanie. Donc, je pense que quand on est à Pagan, si on passe 3 jours, maintenant, il y a une route qui est très correcte pour y aller. En une heure et demie, on peut être au Mupapa. Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut la peine d'aller faire un petit pèlerinage sur ce Mupapa, parce qu'il s'y passe des choses qui sont différentes du reste de la Birmanie. Et sur le chemin, il y a beaucoup de palmiers, les palmiers lantar, qui sont des palmiers à sucre. Et on récupère ce sucre candi, qui est une des sucreries les plus extraordinaires que je connaisse en Birmanie, que l'on mange en même temps en buvant du thé vert. Et on voit les gens qui préparent tous ces petits sucres, comme ça. Et en même temps, ils font un petit alcool qui va jusqu'à 80 degrés. Quand on le boit en plein midi, je peux vous dire que ça fait mal. Mais c'est assez extraordinaire. Donc voilà, la balade du Mupapa, c'est une balade simple, facile et pleine d'aventures. De belles choses à voir.
Donc pour découvrir ce site de Pagan et ce Mupapa, idéalement 3-4 journées?
Personnellement, moi je crois qu'on ne peut pas rester voir Pagan en une journée, c'est impossible. 2 jours, c'est le minimum. 3-4 jours, oui, c'est fantastique. Si on rajoute le Mupapa, donc en une journée, oui. Il faut prendre le temps de vivre, le temps de regarder Pagan, le temps de sentir Pagan. Si on n'a aucune sensation, ce n'est pas que le bouddhisme. Mais bon, en même temps, un site archéologique a toujours quelque chose de fabuleux. Ces temples qui se dressent comme ça dans le ciel, toutes les flèches des stupas qui sont dans le ciel et tout. Quand on rentre dans les corridors qui sont sombres, qu'on voit des bouddhas gigantesques, certaines pagodes ont des vieilles peintures qui datent de 700, 800, 900 ans. Il y a quelque chose, quoi, qui raconte toute la vie des bouddhas et la vie des princes. Bon, il y a des endroits où on se sent bien, quoi. C'est vraiment un endroit de paix merveilleux. Et pour moi, personnellement, c'est le plus bel endroit que j'ai vu en Asie du Sud-Est.
Et le site de Pagan n'est pas encore inscrit d'ailleurs à l'UNESCO, mais ça ne devrait pas tarder maintenant.
Le site est repris en main par l'UNESCO. L'UNESCO donc se charge, avec le gouvernement birman, de remettre le site sur pied, tout en n'en faisant pas trop. Mais je sais que derrière, le gouvernement birman aimerait refaire la splendeur de Pagan comme à l'époque du 7e au 13e siècle. Donc beaucoup s'y sont opposés. Personnellement, moi je pense que c'est aussi une erreur. Il faut conserver Pagan, il faut garder, il ne faut pas que le site disparaisse totalement. Il faut le conserver, mais il faut aussi conserver son âme. Parce que des pierres qui sont toutes neuves, au départ, ça se voit. Bon, elles vont prendre avec le temps, elles vont se remettre à vieillir, elles vont être rechargées d'histoire. Mais un site trop neuf n'est plus un site, quoi. C'est plus la même chose. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais je peux vous dire, malgré ça, quand vous êtes à Pagan, bon, vous êtes en dehors du monde. C'est autre chose.
Pour conclure, petit conseil pratique peut-être sur Pagan, comment y accéder déjà? Est-ce que l'accès est simple? Et logement sur place, comment ça se passe?
Finalement, bon an, mal an, depuis que j'y vais, on a toujours pu se rendre assez facilement à Pagan. Il y a quand même des avions. Bon, à l'époque, il y avait la Burma Airways, c'était pas très recommandable comme compagnie aérienne. Mais maintenant, il y a des tas de compagnies qui sont gérées par des compagnies privées aussi étrangères et birmanes. Donc avec des bons pilotes, des avions français, des ATR-42, et des ATR-72 aussi, ça marche très bien. Donc on peut y aller tous les jours au quotidien, il y a au moins 2 à 3 vols par jour qui vont sur Pagan. Sinon on peut y aller en train de Rangoon jusqu'à Tadzi, qui est sur le chemin de Mandalay, et après de Tadzi vous avez à peu près 5 à 6 heures de route, donc qui est une route qui n'est pas toujours en bon état, pour arriver dans le site de Pagan. Donc moi je conseille quand même de prendre l'avion parce que pour éviter de perdre du temps et de profiter beaucoup plus amplement de Pagan.
Eh bien, merci beaucoup Thierry de nous avoir fait découvrir cette région incroyable et vraiment je pense le site le plus fantastique du pays et certainement l'un des plus fantastiques de l'Asie. On aura l'occasion de continuer la série sur la Birmanie avec de futurs épisodes. On va notamment aller au Lac Inlay, on va aller à Mandalay et bien d'autres endroits. Merci beaucoup Thierry. Nous voilà au bout de cet épisode sur les merveilles de Bagan et du mont Popa. Si vous souhaitez retrouver les différents noms de lieux et les conseils évoqués, vous pouvez lire les notes de l'épisode à l'adresse suivante sur lesroutesdelasie.com/6. Sur cette même page, je vous invite à nous faire part de votre commentaire sur l'épisode et si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner via les différents moyens disponibles par email, flux RSS ou iTunes. iTunes d'ailleurs où vous avez la possibilité de laisser un avis et une note, ce qui est très utile pour faire connaître l'émission. Donc merci beaucoup d'avance si vous prenez le temps de le faire. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, facebook.com/sur-les-routes-de-l'Asie, pour nous suivre par ce biais. Dans le prochain épisode, Thierry et moi continuerons ce voyage en Birmanie et nous irons cette fois dans une autre région magnifique, celle du plateau Shan, avec notamment le lac Inle. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.